France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
La revue de presse. Bonjour Claude Ascolovitch.
Bonjour Nicolas.
Un anniversaire Claude pour commencer.
Et ce triste anniversaire, le titre est du Monde, raconte notre chute. La Déclaration universelle des droits de l'homme fut adoptée le 10 décembre 1948 au palais de Chaillot à Paris. Et pour la célébrer, une statue géante y sera installée. Elle s'appelle la Porteuse de Vie, une Vénus de Milo noir et éventrée qui tient un livre du bout de son seul bras, décrit l'Humanité, qui interroge son auteur Freddy Tsimba, artiste congolais qui utilise pour matériaux des machettes ou les douilles des balles des guerres de son pays, façon, dit-il, de recréer la vie. Belle espérance, mais faut-il espérer? Pierre Aski vous en parlait tout à l'heure. Quand la déclaration, le texte le plus universel de l'histoire de l'humanité, dit Le Monde, témoigne désormais d'une utopie passée. Dans La Croix, le philosophe Marc Crépon parle d'un déficit d'attachement, jolie expression, dont souffrent les droits humains. Les libertés ne sont plus une priorité absolue des électeurs. Aucun pays n'est à l'abri de l'émergence d'un régime tyrannique. Et il dissocie tranquillement Crépon, responsable de la philosophie à l'école normale supérieure, dans un journal qui persiste pourtant, car on voit des militants dans La Croix engagés pour les pauvres, pour la nature ou pour les migrants, mais qui s'en soucient. Partout, les défenseurs des droits de l'homme sont taxés de terroristes, de fauteurs de troubles, d'agents de l'étranger. Parole de Michel Forst, rapporteur général de l'ONU sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, qui livre tribune à Mediapart. Entre 2015 et 2017, au moins 1019 défenseurs des droits humains ont été tués dans le monde. Et le rapporteur poursuit, choquera-t-il ou va-t-il nous ébranler en mettant sur le même plan un homme assassiné au Mexique parce qu'il défendait les terres des Indiens Rarámuri et ses défenseurs des migrants poursuivis en justice en Espagne ou en France, nos pays démocratiques, tous selon lui militants qui dérangent. Est-il audible Michel Force quand la charte de l'ONU sur l'immigration, on lit cela dans l'Opinion, Le Parisien, Le Figaro, Le Monde, Libération, divise les Européens et fracture la coalition belge. Mais nos politiques restrictives, ajoute l'Opinion, précieux journal, fabriquent des clandestins, pas simplement en Europe, mais aussi en Afrique. L'humain est né pour bouger, en bougeant il apprend, il partage les connaissances. Je souhaite que tous ceux qui le désirent bougent. Ainsi parle à l'humanité Freddy Tsimba, ce sculpteur dont la Vénus de Milo au corps troué au palais de Chaillot témoigne de l'utopie.
Et puis les journaux, Claude, attendent Emmanuel Macron.
Et l'attente ne sied pas à la presse, qui ose à peine spéculer ce que prépare Macron pour sortir de la crise. Les Échos et la presse trompent l'incertitude dans l'admonestation. Manu, entends-tu, siffle Libération, ce qu'il doit changer, dit le Parisien. Allez, on juge ce chef de l'État, fût-ce d'un beau mot. Emmanuel Macron a un problème de fin de mois sans S, coup de stylet à l'ego d'un éditorial du Figaro. La romancière Annie Ernaux parle dans Libération du sentiment d'être méprisé des classes populaires qu'attiserait la déconnexion du réel d'Emmanuel Macron et son inconscient de classe. Allons, toutes les critiques se ressemblent, certaines cependant sont malignes. Dans Sud-Ouest, Bruno Dive se souvint qu'il y a un an, le président fut sifflé à la Madeleine lors des obsèques de Johnny Hallyday. Est-ce que tout était déjà là? S'il reste un pondéré, vous le trouverez dans l'Opinion, il se nomme Éric Le Boucher, qui assure que la politique d'Emmanuel Macron est déjà une politique sociale, car la compétitivité et l'amélioration des compétences vont finir par porter leurs fruits. Oui, mais dans la méconnaissance économique, on ne veut pas le voir. Et Le Boucher l'affirme, nous vivons une ère d'infantilisme, une fougue enfantine tournée vers le passé. Le mot est de Lénine qui, Le Boucher l'affirme, n'aurait pas aimé ces petits bourgeois gauchistes que sont les gilets jaunes. Il est fin, l'éditorialiste de l'Opinion, mais son verbe n'englobe pas tout. Les dernières nouvelles d'Alsace titrent sur ces gilets jaunes qui, sur un barrage, ont organisé un marché de Noël pour parler d'égalité. Ils n'ont pas des têtes de bourgeois. Sud-Ouest consacre sa une à Bordeaux en état de choc, car la ville d'Alain Juppé a été ravagée par l'émeute samedi. Et cette une, comparée aux articles qui, dans les journaux nationaux, saluent l'action des forces de l'ordre à Paris, nous fait toucher une fracture qui n'est pas simplement macronienne. C'est la grâce des journaux. De faire penser autrement, il suffit de les lire. Le Figaro et La Voix du Nord, sur leur site internet, racontent le travail d'un journaliste spécialiste du maintien de l'ordre. Il s'appelle David Dufresne, qui rassemble sur son compte Twitter les abus des forces de l'ordre face aux gilets jaunes et qui interpelle le ministère de l'Intérieur. Notez cela, La Voix du Nord et Le Figaro semblent bien seuls à raconter Dufresne, c'est leur mérite, et notez aussi, c'est sur Internet qu'ils le font, car l'édition papier du Figaro n'est que sécuritaire, où le philosophe Pascal Bruckner parle des barbares. Internet n'est pas seulement un lieu de manipulation, c'est aussi le médium que Le Figaro choisit pour raconter un confrère qui se bat un peu seul pour les droits humains.
La violence n'est pas seulement politique ce matin.
Et c'est, pardon Léa, j'en conviens, une méchante façon d'aborder la semaine, mais comment l'éviter ? Deux expressions de l'abandon simplement. Dans le télégramme, un musicien de Brest, Juanito Fuentes, né en Espagne, jour de flamenco. Il revenait d'un concert le 25 novembre dernier par la voie express quand près de Quimperlé, quelqu'un a jeté sur son véhicule une pierre de 10 kilos qui a traversé son pare-brise et lui a cassé le bras. Il a réussi à s'en sortir et a été aidé par des gilets jaunes et des gendarmes, ensemble qu'il eût cru. Dans le progrès, le procès de Julien et Lorena, couple d'amoureux, 27 ans et 19 ans, qui a suri le Comtal dans la Loire le 27 novembre, ont pris en chasse un groupe de jeunes qui leur faisaient peur. Lorena, dont la maman est bipolaire et qui s'occupe de ses frères et sœurs, est sortie avec un poignard de chasse de 18 cm qu'elle ne quitte jamais, il la rassure. Ils ont pris du sursis et comme le dit la présidente du tribunal, Madame Arbault, on se demande dans quel monde on vit.
Merci Claude pour cette revue de presse.